affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons effectuer un véritable voyage, un voyage vers un monde effrayant, un monde dans lequel les êtres humains voisinaient, étaient confrontés et étaient encore souvent perdants face à d'autres organismes vivants présents en grande quantité dans l'environnement. Il s'agit bien sûr des microbes. Ce monde que nous allons explorer, c'est le monde d'avant les vaccins. Et ce voyage, nous allons l'accomplir en compagnie de Philippe Sansonetti. Philippe Sansonetti, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente brièvement. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France, membre bien sûr de l'Académie des sciences, donc vous êtes ici chez vous, et vous êtes un spécialiste internationalement reconnu des vaccins et des bactéries pathogènes contre lesquelles vous avez combattu tout au long de votre carrière. Nous allons voir cela. Vous avez donc publié récemment un ouvrage qui est à la fois un cri d'alarme et une ode au progrès scientifique et médical, très sobrement titré « Vaccin », et j'imagine que ce sous-titre est de l'éditeur, « Pourquoi ils sont indispensables ». Alors à mon tour de vous poser une question, pourquoi avoir ressenti, pour commencer, la nécessité d'écrire ce livre ?
Il y a deux nécessités en réalité. La première, c'est que je trouvais qu'il était temps, après 40 ans de carrière médicale et scientifique, d'essayer de regarder un petit peu ce qui s'était passé. Et je me suis aperçu que, bon, au fond, j'avais accumulé une expérience à la fois scientifique, fondamentale, mais aussi médicale, à la fois chez nous et dans les pays en voie de développement, qui permettait éventuellement de raconter une histoire. Et l'histoire que j'ai voulu raconter, c'était l'histoire des maladies infectieuses telles que je les ai connues et telles que j'ai connu un certain nombre de personnes qui les avaient connues, c'est-à-dire nos anciens, en particulier en médecine. Donc ça, c'était le premier point. Et au fond, j'ai utilisé le vaccin un peu comme un fil rouge de cette histoire, de manière à symboliser, parce que c'en est un, à symboliser le progrès médical spectaculaire du XXe siècle en particulier, enfin de la fin du XIXe et du XXe siècle. Ça, c'était peut-être la raison la plus profonde, c'est au fond une raison très personnelle. L'autre, c'est mon inquiétude quand même grandissante à observer les comportements de doute, d'hésitation, en particulier devant la vaccination, que je rapporte, on en reparlera peut-être, à justement cette perte mémoriel, cette perte de la mémoire de ce qu'étaient les maladies infectieuses. Au fond, quand on n'a pas les choses devant soi, on a tendance à les sortir de son schéma mental. Et au fond, le vaccin est quelque part un peu la victime de cette situation, à savoir qu'après avoir exercer ses bons et loyaux services dans l'élimination de ces maladies infectieuses. On le voit maintenant plus comme une obligation systématique, non fondée, et éventuellement un agent d'effet secondaire à éviter. Donc il y avait quelque part, c'est presque une émotion, une sensation d'injustice vis-à-vis des vaccins qui m'a fait dire que ça y est, il fallait que j'y aille, il fallait que j'écrive quelque chose.
Vous l'avez dit, il s'agit d'une histoire. Cette histoire commence par un flashback, comme on dirait dans le monde anglo-saxon que vous connaissez bien. Quel est-il ? Les premières pages de votre livre nous emmènent dans ce monde d'avant les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous le décrire à grands traits ?
Oui, c'était un monde cruel et surtout c'était le monde d'hier. Je me suis pas mal référé au livre de Stefan Zweig, qui est un de mes livres cultes. C'était pas la peste noire du Moyen Âge. On parle là de maladies qui étaient prévalentes dans la société jusqu'à ce que la vaccination universelle soit mise en place. C'est-à-dire, on parle des années 30, 40, 50, 60 même. C'est-à-dire, hier, c'est le temps de nos parents, c'est même le temps de nous, de ma jeunesse. J'ai encore vu comme interne des hôpitaux de Paris dans les années 1970, et d'ailleurs l'hôpital Claude Bernard est un personnage à plein droit de mon livre, ces maladies infectieuses d'hier, ces pavillons de rougeole, de coqueluche, ces tétanos en réanimation, ces malades dans des poumons d'acier par la poliomyélite. C'était rude, les maladies infectieuses. Ça avait un vrai poids sur les familles, sur les sociétés. Et au fond, si on tourne notre regard vers le sud, on en a encore une image. Et on découvre ce que c'était à la fois comme souffrance et puis aussi, en termes strictement économiques, comme poids au développement des sociétés. Donc il y avait là une dureté, je dirais, de la nature qui au fond, était assez dramatique. Et ça se résume en un chiffre. En 1900, sur 1000 enfants français qui naissaient, 150 décédaient dans la première année. Uniquement dans la première année. C'est ce qu'on appelle la mortalité infantile. Mais d'autres décédaient, bien entendu, dans les années suivantes, malheureusement. Et aujourd'hui, le dernier chiffre, 2012, c'est 3 sur 1000. Et entre les deux, il y a un bon siècle de progrès médical, l'hygiène, les antibiotiques, et puis, bien entendu, les vaccins.
Oui, car vous insistez sur le fait que les stratégies face à ces 7 années microbes ne reposent pas uniquement sur la vaccination. Le progrès dont vous parliez, certes, le vaccin est central, mais il faut intervenir d'autres stratégies.
Oui, le concept de santé publique est vraiment au cœur de mon livre. J'y ai d'ailleurs j'ai un chapitre qui est dédié. Au fond, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que en matière de lutte contre les maladies infectieuses, et au fond, c'est un concept qui est valable dans d'autres domaines, il y a une association d'approches. Ça n'est pas que les vaccins, car ils ont leurs limites, ce n'est pas que les antibiotiques car ils ont leurs limites, en particulier la résistance, ce n'est pas que l'hygiène car on peut mener une vie tout à fait hygiénique et naturelle et malheureusement attraper une méningite ou toute autre infection dramatique. Donc il faut bien comprendre que la santé publique, c'est la conjonction de plusieurs approches, celle que je viens de mentionner bien entendu pour les maladies infectieuses, et que si l'un des piliers vacille, c'est l'ensemble de l'édifice qui va vaciller ou qui va s'effondrer. Donc ça, c'est un point très très important que nos concitoyens prennent pas toujours en considération. Je dis toujours que je trouve que on a dans notre pays un peu de désinvolture vis-à-vis de cette notion de santé publique et on a tendance à finalement prendre notre santé comme un bien acquis alors que c'est un bien qu'il faut en permanence défendre.
Pour revenir à ce monde d'avant, il y a un procédé, parce que votre livre est également assez littéraire, hein, je le précise, il n'est pas destiné à des spécialistes, on peut parfaitement le lire et être passionné sans être soi-même un scientifique ou un passionné de médecine. Il y a un effet de contrat sur lequel vous jouez beaucoup, c'est nous rappeler les grandes œuvres du passé, qu'elles soient de la vie de l'esprit, de la musique, et les mettre en regard du nombre de morts qui peuvent se dérouler à la même occasion en raison d'épidémies. C'est absolument terrifiant. Vous faites notamment une peinture du choléra qui donc frappait Paris au temps de la Tour Eiffel, de Claude Monet, bien connu dans ses murs, de Georges Bizet, de Georges Feydeau et de Jacques Offenbach.
Ouais.
Et oui, c'est l'envers de la vie parisienne.
C'est l'envers de la vie parisienne, comme je l'ai appelé. Oui, j'ai essayé de, sans alourdir le trait, j'espère, d'insister justement sur ces contrastes, parce que au fond, ce qui reste de l'histoire, une fois tout décanté, c'est la vie parisienne, c'est le Paris joyeux, musical, un peu anarchiste. Et au fond, on oublie ce côté sombre qui était celui de la pauvreté urbaine et donc des maladies infectieuses. On oublie le drame de la tuberculose. On oublie des choses qui, à l'époque, avaient un poids terrible. Maladie qui d'ailleurs s'incrustait un petit peu dans la culture, hein. La tuberculose avait ce côté un petit peu romantique,
oui,
totalement absurde. C'est
la forme d'un contresens épouvantable.
Totalement. Total contresens, mais lié à sa fréquence. C'est-à-dire quand une maladie infectieuse devient si fréquente, on finit par dérailler, si je puis dire, dans le raisonnement et dans l'analyse de la situation. On considérait que la tuberculose était héréditaire, par exemple, tellement elle était fréquente. Et donc, il a fallu vraiment que les autorités réalisent avec le temps, et en particulier avec l'impact économique qu'elle avait, que c'était un drame de société et qu'il fallait absolument bouger, et bouger dans des conditions. Malheureusement, il n'y avait ni traitement ni vaccin à cette époque, donc il a fallu utiliser les outils disponibles. Donc c'était un poids terrible, et au fond, la situation actuelle, même si elle n'est pas toujours très reluisante, on a des maladies émergentes, bien entendu, qui continuent à nous agresser. Peut-être les maladies infectieuses, grâce à cette santé publique qui s'est mise en place, ont perdu un peu ce statut dominant, lourd sur les familles et sur la société qu'elles pouvaient avoir, disons, avant les années 50, cette espèce de précarité de la santé, qu'en gros, au fond, on ressent beaucoup moins à l'heure actuelle.
Il est certain, j'imagine, que les mots peste, choléra, peur bleue, variole devaient évidemment susciter des craintes. Aujourd'hui, c'est exotique.
Ça paraît un petit peu exotique. C'était des terreurs quand la peste survenait. On parle là de quelques siècles, hein, donc c'est peut-être un petit peu moins proche et on y est peut-être moins sensible. Quand les épidémies de choléra survenaient, c'était une espèce de maelstrom absolument irrépressible et la mortalité était phénoménale parce que, ne connaissant pas les mécanismes de ces maladies, les thérapeutiques qui étaient appliquées étaient souvent vues avec nos yeux d'aujourd'hui totalement absurdes. Pour éviter le choléra, on le retrouve d'ailleurs dans certaines cultures, dans des pays du Sud, on arrêtait d'hydrater les enfants de manière à diminuer le volume de diarrhée, ce qui est bien entendu la dernière des choses à faire. Mais ça paraît logique, au fond, quand on regarde les faits. Donc il y a eu, effectivement, de fait du progrès médical, possiblement des choses qui se sont mises en place, mais à cette époque-là, c'était vraiment terrible.
Vous avez dit que pour contrer ces phénomènes, l'une des choses importantes est mettre en place des politiques de santé publique. La première nécessité, c'est de prendre conscience du mal, de son ampleur, de façon à ce qu'il justifie effectivement une mobilisation collective et que ce ne soit pas vu comme la providence, le hasard ou le mauvais œil frappant tel ou tel. Quel est le point de départ? Peut-être que ça souligne l'importance de l'épidémiologie.
Oui, l'épidémiologie, et j'y insiste, quelque chose qui probablement a changé la face de la perception des maladies infectieuses. Je parle de Bernoulli, on n'imagine pas quand même, on est au XVIIIe siècle et un homme vient avec une analyse statistique appliquée à la variolisation et à l'amélioration l'allongement de la durée de vie.
Et ce que c'est que la variolisation?
Alors la variolisation, effectivement, c'était une approche un petit peu préhistorique. Ça consistait, en fait, on avait hérité ça de la Chine et de l'Empire ottoman, à varioliser les enfants le plus jeune possible. C'est-à-dire qu'en fait, on leur faisait une petite scarification cutanée avec une sérosité prélevée sur un patient varioleux dont la forme de la maladie était relativement bénigne, parce qu'il y en avait qui faisaient des formes assez bénignes, sans trop bien savoir d'ailleurs si c'était le virus qui était un peu moins virulent ou le patient qui lui-même était plus résistant. Donc, il y avait eu cette observation que cette approche protégeait de la contamination et du développement de la maladie, mais à un prix qui était celui qu'environ 10% de ces personnes variolisées faisaient elles-mêmes la variole et pouvaient éventuellement en décéder.
Mais pas empêcher Louis XVI varioliser en grande pompe.
Voilà, Louis XVI fut variolisé en grande pompe, assez tard d'ailleurs, à l'âge de 20 ans, ce qui était un peu risqué parce que les formes étaient un petit peu plus sévères. Et comme je le dis aussi, Louis XVI, de ces faits, n'est pas mort de la variole, ce qui est une bonne chose, mais ça décimait les cours royales dans l'ensemble de l'Europe. Et c'était une des premières causes de mortalité infantile. Ça, on l'oublie un petit peu, car les enfants y étaient sensibles. Et on voit d'ailleurs sur les statistiques de mortalité européenne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, on voit la trace de la mise en place, alors maintenant non plus de la variolisation, mais de la vaccination, qui est la forme rationnelle, hein, l'approche inventée par Jenner. On voit la trace dans la diminution de mortalité, et ça, c'était très clairement lié à la diminution de la mortalité infantile, malheureusement. Là-dessus est venu en surimpression, sont venues les campagnes napoléoniennes, des choses qui ont un petit peu brouillé les chiffres, mais on voit nettement une cassure dans la mortalité. Donc tout ça, c'est des événements importants dans la vie de l'humanité tout de même.
Donc tout commencerait à se mettre en place avec les travaux d'un mathématicien de l'Académie des sciences.
Et quelque part, on peut dire que M. Bernoulli, mathématicien et médecin, j'y insiste, suisse, a fait une contribution qui a un peu lancé les choses. Et d'ailleurs, la campagne d'éradication de la variole, qui a été menée dans les années 60-70, plutôt 70 d'ailleurs, ses bases fondamentales, épidémiologiques, mathématiques, ont repris une partie des calculs qui avaient été faits par Bernoulli.
Alors, on a parlé de la variolisation, qui est donc une technique archaïque, un peu empirique,
très
qui
empirique.
Annonce quand même la vaccination.
Bien sûr.
Pouvez-vous nous dresser quelques grandes étapes de cette épopée qui était la mise au point de vaccins libérant l'humanité de ces... de cette menace effroyable.
La première grande étape, ça a été indiscutablement l'étape Jenner et la vaccination, c'est-à-dire la possibilité à risque extrêmement limité de protéger contre la variole, qui encore une fois à cette époque-là flambait en Europe et était une cause de mortalité terrible, surtout dans les populations pédiatriques. Ça, c'est le premier élément de...
Vous vous rappelez qui était Jenner ?
Oui, Édouard Jenner était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Était un médecin formé à l'école, comme je le dis, au fond de l'anatomoclinique. C'est-à-dire, au fond, la médecine est née à cette époque-là plutôt de l'anatomie et de la chirurgie. La physiologie peinait un petit peu, même si ça commençait à se développer. Et Jenner, à qui on avait appris de sortir un petit peu des sentiers battus, avait appris l'ornithologie et l'entomologie. Il connaissait très très bien les insectes et les oiseaux, ce qui l'avait amené à une grande capacité d'observation et de perception, en particulier dans les différences de comportement. C'est un spécialiste de l'anidation du coucou, ce qui est quelque chose de très intéressant parce qu'il fallait vraiment observer. Et c'est probablement ce talent d'observation qu'il avait développé sous cette forme-là qui lui a permis d'avoir fait cette observation de la vaccine protégeant contre la variole, puisqu'il voyait que les femmes qui avaient cette maladie de la vaccine, ces pustules sur les doigts, qui étaient en fait un virus proche du virus varioleux, étaient protégées naturellement. On ne savait pas ce que c'était que les virus à cette époque-là, mais on observait et on commençait à tirer des conclusions rationnelles. Et d'ailleurs, si on sort un tout petit peu du domaine des vaccins, en matière de prévention, puisqu'on a dit que la santé publique était un tout, une autre grande étape au XIXe siècle, avant Pasteur, c'est John Snow, c'est le choléra et la transmission du choléra, son étude quasi mathématique, sa prévention en intervenant justement sur la distribution de l'eau. Donc il y a eu là aussi un changement d'échelle et de paradigme dans la compréhension et dans la prévention des maladies infectieuses, qui est formidable. Et puis on arrive à Pasteur, bien entendu. Ce serait quand même difficile de faire plus attendre vos auditeurs. Pasteur est effectivement un autre changement d'échelle dans la médecine préventive. Il faut voir aussi que la rage, même si aujourd'hui ça nous paraît là aussi une maladie un petit peu oubliée, la rage était très très prévalente à cette époque-là, dans les campagnes et dans les villes. Elle existe toujours dans des pays qui n'ont pas encore réussi l'éradication. Donc Pasteur a mené là un combat qui était emblématique, parce que c'était à la fois un combat contre une maladie et puis un combat dont, à l'évidence, il le savait et ses élèves le savaient, était un, un combat plus global contre les maladies infectieuses parce qu'il apportait un principe théorique dans la vaccination, celle de l'atténuation délibérée du microbe, qui montrait qu'il avait compris les choses et qu'on pouvait commencer à rentrer dans la médecine moderne. Donc je trouve d'ailleurs que souvent Pasteur, au fond, est un peu, je dis avec un néologisme dans mon livre Panthéonisé, on l'a beaucoup comme ça glorifié. Souvent d'ailleurs sans trop savoir pour quelles raisons, simplement on en a fait comme ça une espèce d'icône médico-scientifique. Et c'est presque un peu dommage parce qu'on finit par oublier ce qu'il y a derrière tout ça et ce qu'il y a derrière tout ça en termes véritablement de progrès médical. C'est pas uniquement encore une fois la prévention de la rage, c'est un vrai changement d'échelle dans la rationalisation des approches de vaccination telles qu'elles ont pu se développer ensuite.
Et comment vont-elles se développer ensuite? Parce qu'il y a quand même un avant, un après.
Il y a un avant, un après. Il est évident que l'autre élément important de la fin du 19e siècle, c'est la découverte des pathogènes en série, Pasteur, Cor et bien d'autres, hein, dans les pays européens, en tout cas à cette époque, parce que c'est là que l'action était véritablement à son maximum. Donc à partir du moment où ces micro-organismes qu'on découvrait responsables des maladies, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, tout ça, ce sont des découvertes qui sont tombées les unes après les autres. Vous imaginez le nombre d'articles que ça ferait aujourd'hui et dans quels journaux si on arrivait comme ça à faire tomber un pan entier de ce qu'étaient les maladies infectieuses. Donc au fur et à mesure, bien entendu, que ces nouveaux micro-organismes étaient découverts, l'attitude immédiate, et là aussi c'est quand même le paradigme de Pasteur qui prévaut, était de développer des vaccins immédiatement. Alors souvent c'était plus des vaccins, un peu comme le vaccin contre la rage, d'ailleurs des vaccins à visée thérapeutique. C'est-à-dire que la maladie se déclenchait et on vaccinait pour stimuler l'organisme contre le microbe responsable et essayer d'aider les défenses immunitaires de l'individu. Le concept de vaccination initiale était plutôt un concept d'immunothérapie en réalité. Et puis ça s'est très vite transformé, bien entendu, en ce qu'on appelle aujourd'hui la vaccination à proprement parler, c'est-à-dire la prévention de la maladie. On n'attend pas que la maladie survienne pour intervenir. Et donc, très rapidement, des essais ont été faits contre la typhoïde, contre la dysenterie, contre les pneumocoques, contre le méningocoque. Il y a eu énormément de travail au début du XXe siècle, avec des résultats variés en qualité et en efficacité et en risque aussi. Il y avait quand même quelques problèmes, bien entendu. Tout n'était pas maîtrisé. Et puis, il y a eu une date qui est encore d'ailleurs fait partie de l'épopée pasteurienne, c'est le BCG, dans les années 20. C'est la découverte, pour la première fois, au fond, d'une approche totalement dédiée et rationnelle de la tuberculose, en l'occurrence de la prévention de la tuberculose, parce que les antibiotiques antituberculeux vont venir 20 ans plus tard. Donc là, on est dans une nouvelle échelle. C'est-à-dire que bon, on pouvait éventuellement considérer que la rage était une maladie relativement limitée. La tuberculose, on est ailleurs. Là, on est dans une autre planète. Lorsque le BCG est utilisé pour la première fois dans les années 20, on a encore 200 000 Français qui meurent chaque année de tuberculose. Monstrueux. Donc tout ça va aller ensuite très très vite. On a le BCG. Avec des hauts et des bas, quelques bas. Hein. Il y a eu un gros accident à Lubeck où, en fait, le lot de BCG n'était pas du BCG, c'était du bacille tuberculeux. Crise sanitaire grave à l'époque qui aurait pu tuer le vaccin. Qui n'était pas en cause. Et puis le poids de la maladie a fait, bien entendu, que les choses se sont rétablies. Mais enfin, ça montre aussi la fragilité du concept vaccinal, dans la mesure où on ne peut pas se permettre, sur des gens éventuellement en bonne santé, puisque c'est le cas, d'aller créer une maladie. Donc il y a là quelque chose, au fond, qui s'est peut-être aussi imprimé dans cette notion de doute qu'on peut avoir vis-à-vis, au fond, des autorités sanitaires, industrielles, académiques, qui sont quelque part responsables de l'arrivée sur, sur, sur le marché, si on peut dire, de ces vaccins. Donc il y a quelque chose de très sensible auquel il faut faire extrêmement, bien entendu, attention. Et puis, à partir de cette vaccination, de ces BCG, des années 20, les choses se sont alors là accélérées. On a vu des nouveaux vaccins survenir. La diphtérie, qui était aussi une maladie extrêmement prévalente, j'en parle beaucoup parce que c'était une maladie terrifiante. Hein. C'était une maladie où les gens mouraient étouffés, et souvent là, au corps des enfants. C'est mon livre est un peu un livre pour les enfants et aussi un livre d'admiration pour les pédiatres. J'ai toujours eu, en tant que médecin, beaucoup d'admiration pour les pédiatres. Ces vaccins vont survenir et vont survenir sur un mode, je dirais, à cette époque, 20-30, assez high-tech, parce que les premiers vaccins contre la diphtérie et le tétanos, ce sont vraiment des toxines purifiées, rationnellement inactivées, associé à ce qu'on allait appeler des adjuvants de manière à stimuler l'immunité, bien entendu, on en reparlera. Mais donc le concept de vaccinologie moderne est né à cette époque-là, et il est né en particulier à l'Institut Pasteur avec les travaux de Gaston Ramon qui vraiment là aussi a apporté encore une fois un changement d'échelle. Et puis voilà, on peut dérouler ensuite toutes les nouvelles découvertes, voir aussi qu'il y a eu, à partir des années 40 de la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de déplacement aussi de la recherche et du développement vaccinal vers les États-Unis. L'Europe a perdu un petit peu ce statut de puissance dominante, je dirais, dans... Il n'y a pas que dans ce domaine, je vous l'accorde, malheureusement. Et donc, on s'est retrouvé avec...
En l'espèce, comment l'expliquer, d'ailleurs, dans ce domaine précis?
Je pense que les États-Unis, faut aller s'intéresser un petit peu à l'histoire des États-Unis, parce qu'il y a des choses passionnantes. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues américains et au fil des années, mais en particulier pendant mon stage postdoctoral dans les années 80, les Américains avaient été traumatisés par la guerre de sécession et la mortalité. Et la guerre de sécession, mon patron de postdoc me disait qu'il y avait 5 fois plus de soldats qui mouraient d'infections après blessure que de morts directes par disons,
tué
au feu, voilà, je cherchais le terme, merci beaucoup. Et ils avaient été traumatisés aussi par l'épidémie de grippe dite espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale. Et on aurait pu parler aussi de la grippe, bien entendu, peut-être on pourra en reparler. Donc il y avait une espèce de traumatisme qui a fait que les autorités, à la fois militaires d'ailleurs, la médecine militaire, se sont considérablement mobilisées sur le développement de vaccins.
Si je peux vous interrompre une seconde, car bien entendu la grippe espagnole n'est pas espagnole, et ce que vous nous expliquez, c'est qu'elle est américaine.
Oui, elle est américaine. Alors il y a un peu.
Peu que les microbes aient une nationalité. Mais
voilà, les microbes sont sans
frontières. Mais le foyer était américain.
Les microbes sont sans frontières, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que ça permet à tout le monde de se coaliser contre. Non, la grippe, oui, il y a encore quelques discussions sur le fait qu'elle soit éventuellement née en France à Étaples, mais enfin. Tout le monde s'accorde à penser tout de même que l'épidémie avait commencé dans les camps d'entraînement des soldats américains dans cette dernière année, au moment de leur intervention. Mais ça avait décimé les troupes alliées, d'ailleurs, et en particulier les troupes américaines. Donc je crois que les Américains étaient devenus très, très sensibles à ça. Et puis alors, il y a... Un moment très très important dans la bascule, c'est la poliomyélite. C'est l'aggravation des épidémies de poliomyélite au début du siècle, dans les années 20-30. Le fait que certains personnages célèbres, Roosevelt, étaient touchés par la polio, il était paralysé des deux jambes, et la polio est devenue quasiment une cause nationale, dans la mesure où il y avait là aussi un changement de nature des maladies. Jusqu'à présent, la tuberculose, c'était des maladies des pauvres, pour simplifier, des misérables. je reprends le terme de Victor Hugo, d'un seul coup, on avait une maladie qui touchait les classes moyennes, les classes aisées, les gens qui vivaient dans des conditions d'hygiène.
Et préférentiellement les classes aisées. Hein.
Préférentiellement les classes aisées, bien entendu, en tout cas dans la manière dont la maladie est véritablement sortie, émergée. C'est une émergence, en fait, en Europe. Bien sûr, elle est encore prévalente, malheureusement, dans les pays en voie de développement, même si la campagne de vaccination universelle a considérablement diminué le nombre de cas, puisqu'on est quasiment maintenant presque à l'extinction de la poliomyélite. Il y a quelques petits problèmes. Mais donc, ce sont des faits qui ont réveillé l'Amérique. Et je raconte l'histoire, parce que ça, on me l'a beaucoup raconté aux États-Unis, de la March of Dimes, qui a été le premier téléthon de l'histoire, au fond, a été lancé aux États-Unis pour mettre en place une prévention de la poliomyélite.
Donc, ce qui expliquerait cette prééminence désormais, depuis les années 40-50, si je comprends bien, des États-Unis,
c'est
à la fois un traumatisme, mais aussi une capacité de mobilisation de l'ensemble de la société. C'est ça que vous voulez nous dire?
Oui, il y a eu, je crois, une reconnaissance. Il y a eu des personnalités extrêmement brillantes et visibles qui ont été ce qu'on appelle en anglais l'advocacy, des personnes qui ont une aura suffisante médicale, scientifique, politique éventuellement, pour montrer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur tant qu'on n'a pas réalisé l'importance, le poids d'une maladie, on ne bouge pas. Donc ce sont des gens qui font bouger. Aujourd'hui, on appellerait ça des lanceurs d'alerte, en fait. C'est un concept qui n'est pas si récent que ça, et qui entraîne derrière eux à la fois l'adhésion de la société, la reconnaissance du mal en cours. Et donc, le monde scientifique et le monde industriel ont suivi. Ça a été le cas pour la poliomyélite. Et en 20 ans, l'affaire a été réglée. Donc, c'est vrai que l'Amérique fait bien ces choses-là, mais il ne faudrait pas non plus tomber
dans le masochisme
européen ou français. L'Europe a continué à être très active. Je veux dire, Pierre Lépine à Pasteur était très en parallèle, au fond, de ce qui se faisait, en particulier au Royaume-Uni ou aux États-Unis. On a continué. Et puis beaucoup des firmes pharmaceutiques qui se sont construites autour du vaccin ont été des firmes françaises ou européennes. Donc on a quand même gardé une forte tradition de ce côté-ci de l'Atlantique dans la lutte contre les maladies infectieuses. Je raconte un petit peu l'épopée du vaccin contre la méningite au Brésil. C'est quand même cette action de Charles Mérieux, là aussi. On est dans l'advocacy, c'est-à-dire quelqu'un qui saisit immédiatement le problème et qui est capable de bouger les montagnes pour aller en quelques mois, éradiquer une épidémie de méningite qui était en train de tuer des milliers de personnes au Brésil. Donc il y a des moments de grâce dans tout ça qui sont quand même exceptionnels. Et quand je vois ou quand j'entends ce qui se dit sur les vaccins aujourd'hui par certaines personnes que je ne nommerai pas, j'ai honte quelque part. Je me dis, c'est pas possible qu'on puisse tenir des propos aussi négatifs sur des outils qui ont été vraiment des outils absolument exceptionnels pour sauver des vies humaines.
Alors, est-ce qu'on peut justement, puisqu'il s'agit, vous avez parlé d'advocacy, le terme français serait peut-être plaidoyer.
Plaidoyer, oui. Plaidoyer.
Enfin, un plaidoyer en faveur des vaccins, mais surtout je vous propose de faire une sorte de critique systématique des arguments avancés par les adversaires. Après tout, il faudra peut-être aussi démonter leur discours. Ils sont forts à l'offensive pour semer le doute, pour l'instiller, justement. Est-ce que la meilleure défense, ce n'est pas en la matière aussi l'attaque? Est-ce qu'il ne faut pas démonter ce discours souvent fait de sophisme, de raisonnement faux?
Oui, il y a beaucoup de sophisme. Je pense que il faut... C'est très difficile. Parce qu'au fond, on est dans une position un petit peu déséquilibrée quelque part. Et je crois que c'est un phénomène général de la position du médecin ou du scientifique plus généralement dans la société par rapport justement à ce type de situation. Nous, on est contraints à une rigueur scientifique, dans nos propos, dans notre expression, dans nos raisonnements. Eux, si on peut dire, ne se sentent pas liés par ça. Je veux dire, le sophisme fait effectivement partie de la stratégie, c'est-à-dire que on impose des semi-vérités, voire des mensonges, et on les fait passer à coup d'émotions, de cas d'ailleurs plus ou moins justifiés où les vaccins sont éventuellement impliqués. Donc il y a une certaine difficulté à faire valoir ce discours qui n'est pas un discours pro-vaccinal. Pour moi, c'est un discours pour la santé publique, pour le maintien de la santé, parce que je sais profondément que c'est un facteur de bien-être individuel, collectif, et puis c'est aussi un facteur de développement pour nos sociétés. J'ai bien vu ce qu'étaient les maladies infectieuses dans les pays pauvres, en Asie, du Sud-Est, en Afrique. C'est quand même des choses qu'on n'a pas envie de voir ou de revoir dans nos régions et qu'on a envie d'éradiquer là aussi dans ces régions de manière à ce qu'elles puissent se développer. Donc je trouve ces discours irresponsables par le fait qu'ils mettent en danger la santé publique et qu'au fond, ils mettent en danger la santé et la vie de leurs concitoyens. Alors maintenant, j'évite aussi ou j'essaye d'éviter de tomber dans le discours, disons, pro-vaccinal, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus. Je pense que les vaccins ont leurs limites. Il faut l'analyser. On la voit bien d'ailleurs dans les maladies émergentes actuelles. Le vaccin est toujours un petit peu en arrière parce qu'il faut gérer l'urgence et le vaccin n'est jamais véritablement prêt au bon moment, ou alors il sera prêt pour l'épisode suivant d'émergence. Il y a indiscutablement, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, des questions qui se posent et que se pose la population autour des adjuvants, du côté naturel ou pas naturel. On sait bien que l'aspect naturel maintenant est quelque chose qui est sociologiquement important. Donc je pense qu'il y a tout de même une explication à donner. Je pense que ce qu'il faudrait qu'on comprenne collectivement, c'est que on est en permanence dans le rythme du progrès médical. Et il y aura bien entendu des progrès au niveau des vaccins, à la fois dans leur qualité, dans leur généralité, dans leur efficacité, mais aussi dans leur tolérance. Pour l'instant, on est encore accroché à des adjuvants dont on a besoin, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, qui ont effectivement, rares, mais ça existe, des effets secondaires, locaux, systémiques. Il est exceptionnel qu'on observe des complications gravissimes, mais ça peut arriver. Et donc il faut absolument que la science continue à avancer dans ce domaine. Il faut aussi que les industriels, à qui on fait souvent jouer le mauvais rôle, mais qui au fond assurent tout de même la production de ces vaccins, qui sont les seuls à pouvoir en assurer la sécurité, parce que les conditions de fabrication, selon les bonnes pratiques cliniques et biologiques, il n'y a que, c'est pas le système académique, on n'a pas les moyens financiers, en tout cas, d'assurer cette sécurité des vaccins. Donc il va falloir dédiaboliser les industriels, alors que c'est beaucoup le thème à l'heure actuelle du complot des industriels. Mais il faut aussi que les industriels nous aident. Il faut qu'ils nous simplifient un petit peu la vie dans notre discours. Il faut qu'ils apprécient aussi, certains le font, j'en connais beaucoup, ce côté sociologique qui est en train de se développer par rapport au vaccin. Il y a le problème par exemple, des sels d'aluminium. Les sels d'aluminium, on les utilise depuis 90 ans, hein, depuis que le premier vaccin qu'on appelle sous-unité, diphtérie, tétanos, Ramon, a été utilisé. Ce sont les sels d'aluminium qui ont été utilisés comme adjuvant. Et disons, probablement, dans l'état actuel des choses, de façon très objective, c'est le meilleur adjuvant en termes d'efficacité dont on puisse rêver. Maintenant, il est sûr qu'il entraîne ces petits effets secondaires qui ne sont pas systématiques, mais qui peuvent être un petit peu désagréables dans certaines circonstances. Il y a des travaux en cours. Le thème important, c'est celui des microparticules, celui des toxiques à petite dose. Alors l'aluminium a eu vite fait d'être placé sur cette liste rouge. Moi, j'ai un sentiment extrêmement mitigé par rapport à tout ça. D'un côté, je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain arrêter des choses qui marchent, et Dieu sait si elles marchent, sans néanmoins écouter un petit peu ce qui se dit. Et je dis à la fin de mon livre qu'au fond, la vaccinologie, c'est 50% de médecine et de science et 50% de sociologie. Et je pense qu'il faut aussi écouter la société. Parce qu'on ne peut pas, en permanence, la renvoyer dans les cordes, si je puis dire vulgairement. Il y a des réalités et il va falloir s'adapter à ces réalités. Mais il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et il faut aussi savoir que si on change d'adjuvant, il faut refaire tous les essais cliniques vaccinaux, en gros. C'est-à-dire que ça a un coût. Et ça, c'est une de mes grandes préoccupations actuelles, c'est l'enchérissement du coût des médicaments et des vaccins, d'ailleurs, en général, des vaccins en particulier, dans ce qui nous concerne ici, l'enchérissement progressif du coût des vaccins à cause de la valeur technologique ajoutée, à cause de la taille des essais cliniques qu'il faut effectuer pour s'assurer de l'absence de... Voilà, la sécurité a un coût, et ce coût risque de fragiliser le statut du vaccin en tant que, au fond, meilleur impact en santé publique en termes de rapport qualité et coût. Et la notion de coût, alors souvent quand je parle de coût, on me dit, oui, bon, bah, c'est encore des problèmes financiers, il n'y a qu'à. Bah, non, ce n'est pas si simple que ça, parce que nos systèmes de santé, ils sont extrêmement fragiles, ils sont à flux tendu, on le voit bien aujourd'hui, et c'est le cas partout, y compris dans les pays comme les États-Unis. Si on se prive d'un outil de santé publique, en particulier les vaccins, il va falloir rouvrir des services de maladies infectieuses, réengager des personnels, ouvrir éventuellement un nouvel hôpital Claude Bernard. Tout ça a un coût. On ne peut pas se payer ça de nos jours.
Alors, un des arguments quand même des anti-vaccins, entre guillemets, c'est de dire oui, mais pourquoi faut-il... Je suis désolé, je viens avec des choses un peu assez terre-à-terre, mais quand j'entends leur argumentaire, il y en a un qui vient souvent, c'est... pourquoi continuer à se vacciner contre des maladies qui ont disparu?
Ouais.
Ça peut peut-être toucher du doigt l'enjeu.
Oui, bah, c'est un peu le thème de ce livre, c'est de dire qu'au fond, les maladies infectieuses n'ont pas disparu. Elles ont été, pour l'essentiel, en tout cas les maladies de la prime enfance, éliminées.
Les maladies peuvent avoir disparu, la souche est là.
Mais les microbes sont là, continuent à circuler, et on voit la rougeole réapparaître dès que le taux de couverture vaccinale passe un tout petit peu en dessous de la ligne ou du seuil nécessaire. On voit la coqueluche qui réapparaît à l'heure actuelle. On verra revenir ces maladies infectieuses. La seule qui soit vraiment éradiquée, éradiquer, ça veut vraiment dire la maladie éliminée et le microbe disparu. C'est la variole. Les autres sont là. Il y a une grande tentative internationale d'éradication de la poliomyélite avec énormément de difficultés. Pour l'instant, la maladie est quasiment éliminée de la planète, mais les virus ou certains sérotypes de virus ne sont toujours pas éradiqués. Donc c'est là, ça sera impitoyable. On l'a vu lors de l'effondrement de l'Union soviétique, le retour de la diphtérie a été quasiment immédiat,
avec des milliers de cas. Maladie revient.
La maladie revient. Et lorsque les structures publiques s'affaissent, effectivement, la première chose qui se dégrade, c'est la couverture vaccinale. Parce que, bon, ça nécessite tout de même une présence, des infrastructures et une organisation.
Non, est-ce que nos sociétés ne sont pas dans une situation un peu paradoxale aussi? Parce que certes, elles nourrissent des peurs un peu étranges et très individuelles, en fait. C'est-à-dire que ça ne tient pas de l'automédication, mais de la volonté de réguler ses propres comportements. On a peur de ses aliments, on a peur des médicaments, on a peur de l'air qu'on respire, on élabore des stratégies personnelles pour éviter tout ça. C'est un petit peu paranoïaque comme ambiance, hein, ou comme psychologie collective ou individuelle. Mais d'un autre côté, il y a aussi en arrière-fond, peut-être venant du tréfonds de ce monde d'avant que vous avez si bien décrit dans votre ouvrage, la crainte d'émergence, crainte justifiée, semble-t-il, d'émergence de nouveaux virus, de pandémies, aussitôt qu'il y a un foyer de type Ebola ou autre, les craintes sont réelles et traversent nos mentalités, des choses qui étaient enfouies et qui reviennent très vite.
Oui, je pense qu'on est un petit peu schizophrène quelque part, et paranoïaque, ça commence à faire beaucoup, mais... C'est, encore une fois, c'est très difficile. Je crois qu'il y a bien sûr une perte de mémoire de ce qu'étaient les maladies infectieuses. Et au fond, pourquoi ce concept d'élimination et d'éradication des maladies infectieuses ne rentre pas dans ce schéma mental de vie saine et, au fond, il n'y a pas pire qu'une maladie infectieuse pourrir votre vie, pour être vulgaire. Je suis un petit peu étonné que le vaccin, au fond, ait été rejeté hors de ce concept, qui, pour moi, ne pose pas vraiment de problème. La seule chose qui me pose problème, c'est l'égoïsme. C'est, dans la mesure où j'en parle beaucoup aussi, la santé publique, c'est une affaire collective. Alors, on est une nation, on a des droits, beaucoup, mais on a aussi des devoirs, et j'ai du mal à entendre ce discours qui dit « j'ai pas besoin de vacciner mes enfants puisque les enfants des autres sont vaccinés ». Ça, je trouve ça insupportable, d'égoïsme. Et quelque
et
part,
ça a une limite. Hein.
Et ça a une limite, bien entendu, parce qu'à force de cultiver ce paradoxe, les enfants des autres vont plus être vaccinés et les maladies vont revenir. C'est une évidence. Alors, voilà, maintenant aussi... je cite beaucoup Charles Nicoll, qui était d'ailleurs professeur au Collège de France, sur son concept du destin, de la vie et de la mort des maladies infectieuses. Et Charles Nicoll disait de toute façon qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses, dans la mesure où il y aurait toujours un microbe qui s'adapterait à des conditions particulières. C'est exactement ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a éliminé les maladies du monde d'hier, de la prime enfance, ou en tout cas on essaye de maintenir cette élimination, de l'étendre aux pays du Sud, mais on voit apparaître des émergences qui, en fait, sont des microbes qui se glissent dans des failles que lui offrent les sociétés nouvelles, en particulier l'augmentation de la population mondiale, clairement, entraîne l'invasion de zones, en particulier forestières, qui sont des sources de sauts d'espèces, de microbes et d'émergences. Les technologies modernes, l'alimentation moderne, industrielle, créent des conditions où des microbes peuvent éventuellement se glisser malgré toutes les précautions et utiliser ce côté global, en fait. C'est des maladies de la globalisation. Les transports internationaux font que une maladie va démarrer comme en ce moment ce qu'on appelle le MERS, c'est-à-dire cette infection à coronavirus dans la péninsule arabique. Et puis d'un seul coup, un foyer démarre en Corée du Sud, et puis le lendemain, ça va être éventuellement au Canada. Cette globalisation nous met en très grand danger, effectivement, de subir à n'importe quel endroit une infection émergente. Et Ebola était un exemple. D'ailleurs, faut pas se faire d'illusions. Je finis par être un petit peu cynique aussi, de temps à autre. La grande émotion sur l'épidémie récente d'Ebola en Afrique de l'Ouest était extrêmement sincère et beaucoup de personnes se sont mobilisées sur le terrain, à commencer d'ailleurs par Médecins Sans Frontières qui était là dès le début. Mais une partie de nos réactions de dramatisation sont nées de la crainte qu'on avait que du jour au lendemain, cette maladie débarque en Europe. Et voilà. Donc, bon... Mais j'aime pas être cynique.
Cela dit, vous parlez de mondialisation, on peut parler peut-être d'accélération, de facilitation, parce que oui. Vous donnez de nombreux exemples de maladies qui, bien sûr, voyageaient en des temps plus anciens, notamment s'agissant de la seconde pandémie, si je ne me trompe pas, de choléra.
C'était effrayant, la vitesse de progression.
Oui. Partant de son, je vous cite, « La seconde pandémie, partant de son foyer naturel, le golfe du Bengale, avait balayé d'est en ouest l'Inde, l'empire des tsars et les marges de l'Europe. » Suivant les pèlerins de la Mecque, elle avait aussi envahi la péninsule arabique, était remontée par l'Égypte pour toucher les empires ottomans et austro-hongrois, dont Venise, puis avait continué sa course folle vers la France et le Royaume-Uni, avant de sauter l'océan Atlantique. Ouais. La mondialisation, c'est quand même pas, c'est quand même pas d'aujourd'hui.
C'est un bateau. C'est d'ailleurs un navire français qui a amené le choléra à Montréal. Et ensuite, une épidémie terrible à New York. En fait, le choléra était véhiculé dans l'eau de ballast, dans l'eau des cales des bateaux. Donc, non, c'était effrayant. Le choléra progressait à la vitesse de progression de l'homme sur Terre et des moyens de transport maritime. Ça a été la première pandémie moderne, je dirais.
Dans ce combat déjà ancien contre les microbes, les virus, les maladies infectieuses, et cette épopée qui a été la mise au point de stratégies comprenant le vaccin, quelles sont les prochaines étapes, que faut-il faire pour s'en prémunir? J'entends à la fois au niveau individuel, mais surtout collectif, et peut-être même dans l'évolution de nos mentalités. Est-ce que c'est pas d'abord prendre conscience que ce combat n'est pas fini?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de, je dirais, d'éducation à la compréhension de la nature, du mécanisme, des risques encourus, des moyens qui sont disponibles, mais aussi la compréhension des failles et des possibilités, justement, d'émergence. Je pense qu'il faut expliquer aussi, parce que c'est passionnant, les progrès de l'épidémiologie, le recueil des informations sur le terrain, les signaux, la détection des seuils de signaux, la modélisation de l'émergence d'une épidémie et par quels paramètres statistiques, probabilistiques, on peut essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Il y a des progrès absolument phénoménaux. On revient à Bernoulli, hein, c'est les mathématiques ou la mathématique qui rejoint la médecine. On est dans une période où la modélisation est en train de prendre une part très très importante. Et donc c'est effectivement tout est affaire de signaux, de détection même de signaux minimes et au fond d'intégration de ces signaux dans l'existence ou non d'une menace en cours. Et ça nécessite une couverture sur l'ensemble de la planète. Donc avant même la problématique des vaccins, des antibiotiques, enfin toutes les questions qu'on peut se poser, il y a maintenant, je crois, de façon prédominante la veille permanente et la détection des émergences et des réémergences. Je ne vous parle pas de résistance aux antibiotiques et autres problématiques qui seront d'ailleurs mon prochain ouvrage, probablement. Sauvons les antibiotiques, parce que là aussi, j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude sur la perte de confiance éventuelle dans les vaccins, même si je ne voudrais pas que les chiffres un petit peu cataclysmiques qu'on nous produit maintenant, qui sont au fond des surveillances assez superficielles de la situation, s'enquistent un petit peu, s'incrustent comme étant la réalité des choses. Je crois qu'on a des parents en particulier qui sont un petit peu inquiets, et le travail à faire, c'est de les rassurer.
Oui, affirmer un doute, ce n'est pas affirmer une opposition.
Non, tout à fait. Il ne faudrait pas créer une situation où ce doute est finalement, au fond, validé quelque part et présenté comme... Je l'ai vu trop souvent, il y a eu statistique portée sur quelques milliers de personnes, mais je veux dire, la réponse des personnes est aussi vraiment dépendante de l'environnement immédiat, de la situation médiatique à un moment ou un autre. On a dit 41% de personnes doutent des vaccins en France. Alors effectivement, on est un peu champion du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'essaye pas de dire le contraire, mais on voit immédiatement dans certaines expressions ce 40% de doutes se transformer en 40% des Français, voire la moitié des Français sont hostiles au vaccin. Il faut arrêter les bêtises.
Oui, puis j'imagine que si un sondeur vous appelle un jour entre la tonte de la pelouse et l'apéritif pour vous demander si vous doutez des vaccins, si on n'est pas un spécialiste, on a plutôt tendance à dire « bah oui, je me pose des questions, donc je doute ». Mais si on pose les mêmes questions lorsque les parents sortent avec leur enfant de chez le pédiatre, on ne trouvera pas les mêmes taux, c'est certain.
Oui, il faudra qu'il faut être très prudent et je voudrais éviter que ne s'incrustent ces chiffres et qu'ils soient surinterprétés, parce que sinon on va avoir un travail très très difficile à effectuer. Non, mon autre inquiétude, c'est le risque de... Je pense pas être un prédicateur d'apocalypse, mais je voudrais quand même mettre mes concitoyens un petit peu à la fois en éveil par rapport à tout ça, et puis peut-être un peu aussi en responsabilité. Les antibiotiques, si on n'y prend pas garde, on risque de les perdre. C'est-à-dire que si on perd les vaccins et les antibiotiques, cette période glorieuse du XXe siècle et du début du XXIe siècle va devenir du passé. Et qu'est-ce qu'on a à proposer en échange? Rien pour l'instant, absolument rien. Donc il y a un vrai travail aussi pour sauver ces antibiotiques, éviter leur surutilisation. Mais le problème est, je pense, assez grave dans la mesure où c'est même plus un problème d'utilisation dans les hôpitaux, c'est un problème d'utilisation dans l'agriculture, dans l'élevage. C'est-à-dire, c'est devenu global. C'est presque le même problème que le réchauffement climatique, quoi. C'est-à-dire, le vaccin est devenu quasiment un polluant des sols et des eaux. L'antibiotique est devenu un polluant des sols et des eaux, alors que c'est une merveilleuse molécule qui sauve des vies. Donc, je crois que il faut absolument sortir de cette espèce d'endormissement là, qui, à mon avis, risque d'être fatal, et remontrer notre attachement à ces outils de la santé publique que sont les vaccins et les antibiotiques.
Eh bien, professeur, je crois que la façon dont vous avez lancé ces cris d'alerte suffiront à démontrer à nos auditeurs, y compris les plus sceptiques, qu'être favorable au progrès, le trouver formidable, ce n'est pas non plus être béat et considérer qu'il est automatique et que tout ira mieux demain. Tout ça est en effet affaire de mobilisation collective, mais aussi, vous l'avez dit, de responsabilité individuelle. À chacun donc de s'informer et de prendre ses responsabilités en tant que parent, en tant que citoyen. Aussi. Et l'une des premières choses à faire dans ce mouvement positif est probablement de consulter votre ouvrage, dont je rappelle les références. Vaccins, pourquoi sont-ils? Ils sont indispensables, aux éditions Odile Jacob par le professeur Philippe Sansonetti. Un livre à lire de toute urgence, comme le suivant, j'ai bien compris, mais nous vous réinviterons, de façon à ce que le monde d'hier que vous évoquiez en début d'émission ne devienne pas le monde de demain, ce qui serait effroyable. Merci professeur.
Merci beaucoup.